Bienvenue au Polysécur. Cet épisode, je suis avec Frank.
Bonjour. Salut Nicolas. Enchanté d'être avec vous aujourd'hui.
Oui. Puis c'est dans ce fond officiellement maintenant un podcasteur récurrent avec nous, un permanent.
Essayer d'être à la hauteur du projet.
Ça va être très intéressant. De toute façon, on va toucher à plein de sujets, là, étant donné que tu es un homme orchestre en sécurité, donc on va jouer avec bien des affaires. Ça va être très agréable. Pour commencer, on va faire un premier tour au niveau de la sécurité Azure. Parce que là, vraiment, avec le confinement, avec le télétravail, ainsi de suite, on a vraiment fait une bascule rapide. Beaucoup de compagnies ont touché ou en tout cas vécu Azure pour la première fois de leur vie ou de façon réelle et intense depuis un an. Donc, il y a beaucoup de considérations à avoir avec ça. Puis, c'est pas nécessairement simple, c'est pas nécessairement facile ou en tout cas à première vue, là, c'est pas nécessairement intuitif.
Effectivement, je te suis entièrement, sachant qu'en plus, des choses que les gens ont du mal à comprendre entre Azure, Microsoft et la plateforme M365. Parce que la plupart du temps, les gens, évidemment, dès qu'on parle d'Azure, on pense qu'on fait un amalgame de tout. Malheureusement, c'est pas comme ça qu'il faut le considérer. Microsoft a par sa particularité quand même hijacké, en tout cas, et je pense que mes amis de Microsoft me pardonnent du terme, mais hijacké l'accès à l'identity provider, ce que moi j'appelle évidemment la notion de ceux qui pilotent évidemment le directory, la notion de ce qu'on appelle la GIA, ou en tout cas la GI, la partie de gestion des identités et évidemment des accès par la suite, mais surtout la gestion des identités, et ça on le sait depuis les années 80, c'est évidemment l'Active Directory ou le LDAP, hein, dans les anciens formats qu'on précisait. Donc ça, évidemment, au fur et à mesure du temps, bah, l'Active Directory, par défaut, c'est quand même Microsoft qui l'a vraiment imposé avec, en plus, ses Windows Server au fur et à mesure des années, autant depuis Windows NT, que ça soit, et ça, c'était dans mon vieux temps, NT 3, NT 4, évidemment, Worst Group avant ça, d'ailleurs, qui était le balbutiement, évidemment, de NT, puis quand, évidemment, Windows 2000 est arrivé, et avec, évidemment, 2003, 2008, 2012, et on est à 2019 à aujourd'hui. Donc, tout ça, évidemment, une vie on-premise et une vie d'entreprise, en fait, en tant que telle. Et donc, la sécurité en tant que telle passe déjà par Microsoft via la notion de l'Active Directory et puis de l'Azure Active Directory. Mais quand on parle de l'Azure Active Directory, c'est un faux nom que Microsoft a donné pour mettre le mot « A » devant, parce que c'est lié logiquement à l'origine via la plateforme M365. Et c'est là où les gens font une confusion entre l'infrastructurel qu'on peut faire dans Azure. Donc, pour ceux qui ne savent peut-être pas ce qu'est Azure au global, mais le mot Azure en tant que tel regroupe la possibilité de faire ce qu'on appelle du IaaS, du PaaS et du SaaS, donc de l'infrastructure as a service, du platform as a service ou du software as a service. Il y en a plein d'autres maintenant qui sont évidemment arrivés, comme les serverless ou autres, donc les functionless, les conteneurs, les Kubernetes, il y a évidemment d'autres aspects qui rentrent aussi en compte. Et ça va avec des responsabilités, effectivement, qui sont énormément importantes du côté cloud public et que les gens souvent oublient parce que on n'a pas à le faire ou on le faisait en fait dans son propre CTI ou son data center parce que évidemment là c'est le cloud public comme Amazon ou comme Google ou autre que Azure le fait. Mais Azure là recouvre que cette partie-là. M365 derrière, ça recouvre toute la partie Office. Donc, comme si vous êtes en Google Suite, en fait, dans le même style. Puis tout ça est chapeauté automatiquement via, évidemment, la partie Active Directory. Donc, si on comprend un petit peu que le chapeau est Active Directory par défaut, mais c'est parce que M365 s'appuie sur l'Active Directory par défaut, après découle la possibilité de faire de l'Azure ou pas de faire de l'Azure. Mais c'est pas parce que vous avez un Azure ou une subscription Azure que vous avez évidemment la possibilité de faire du PaaS et du SaaS et du IaaS, parce que évidemment il faut obligatoirement avant ce qu'on appelle un tenant ou un Active Directory pour avoir évidemment la plateforme. D'ailleurs, la meilleure manière de créer ça souvent, c'est que si vous créez un compte évidemment M365, il s'appuie derrière à créer en fait un Active Directory qui est évidemment accessible tout de suite. Mais quand vous faites cet Active Directory, c'est pas pour autant que vous avez ce qu'on appelle un abonnement qui vous permet de faire de l'Azure derrière. Donc c'est pour ça que Déjà, quand on met les bons mots et au bon endroit, on commence à piger que les data centers sont pas tout à fait au même niveau. Puis en plus, je rappelle juste un dernier point au niveau sécurité pure, je veux dire, built-in côté cloud. Donc, côté Microsoft, les data centers M365, comme d'ailleurs, à la différence que Google et Amazon, eux, ils ont que la partie, évidemment, infrastructurelle qu'on a dit, pas SaaS, IaaS, eux, les data centers sont séparés. Donc, quand ils disent qu'ils mettent des régions avec un data center Azure, ils mettent les mêmes data centers à côté pour M365 en même temps. Souvent, ça suit quand même assez logiquement les régions. C'est sûr qu'il y a un tout petit peu moins de régions en M365 qu'en Azure, mais en tout cas, comme ceux de Canada, là, Canada East et Canada Central, il y a évidemment les data centers M365 et Azure qui sont cumulés. Donc oui, effectivement, la sécurité est l'essence même à ce niveau-là. Donc ça, c'est si on les sépare, on arrive à comprendre qu'on ne tape pas au même endroit lorsqu'on parle de sécurité de l'un à l'autre. C'est ça le souci.
De un point, puis c'est important, puis je trouve ça très intéressant, tu as amené justement l'angle de confusion entre M365 ou O365 pour les plus vieux et Azure, parce que ces enveloppes-là, les gens sont confus parce qu'on a des fonctions Azure dans M365, mais la réalité, c'est que la vraie dorsale d'un tenant, c'est nécessairement l'Azure AD qui est à l'intérieur, parce qu'on ne peut pas vivre avec deux Azure AD dans un même tenant. C'est physiquement impossible selon les principes que Microsoft a mis en place. Donc, puis ça, l'exemple classique, c'est quand on veut mettre un B2C, ben il faut qu'on ait un tenant séparé, spécifique pour ce genre de service-là, parce que ça ne peut pas vivre dans le même tenant principal, parce qu'il y a confusion sur justement la dorsale. Et là, tous les éléments de sécurité qui viennent s'entourer de ça, dans Azure et dans M365 aussi, se parlent, mais ne se parlent pas toujours.
Oui, puis en même temps, pour te suivre au travers du terme de la dorsale ou le backbone, comme on le précise, c'est certain que malheureusement, et c'est toujours le problème en sécurité aujourd'hui, le cloud en a amené une grosse partie, c'est la notion des... Moi, à chaque fois que j'essaye d'expliquer quelque chose en sécurité, c'est de dire est-ce qu'on parle du même contexte et du même glossaire. Et la problématique à aujourd'hui, c'est qu'on dit AD, on dit directory, on dit tenant, on dit multi-tenant, mais on dit pas multi-directory, mais tout ça veut dire la même chose. C'est que c'est de toute façon, peu importe si on l'appelle comme une base de données ou une base objet d'identité, alors c'est sûr que le terme et le vrai terme devrait être directory et devrait être tenu comme directory. Pourquoi on a dit tenant après coup? C'est parce que ça sous-entend une certaine mauvaise traduction par rapport au français, c'est le côté locataire, parce qu'en fait tu deviens sous-locataire de Microsoft. Pourquoi? Parce que malheureusement Microsoft accepte la fédération qui est une fédération où vous comprenez bien que si votre AD est on-premise, pour que vous puissiez évidemment avoir la même copie que votre AD pour des mécaniques ou des mécanismes particuliers avec évidemment, et puis là on va peut-être pas rentrer dans les détails parce que c'est un petit peu plus complexe sans visuel, mais à cause évidemment de la notion hybride, non-hybride, PHS, PTA, qui sont des acronymes assez bizarres, mais qui ont leur explication en tant que telle et la manière qu'ils sont faites, c'est que quand vous allez évidemment mettre votre TLD, donc votre nom de domaine, qui va être macompagnie.com, bah avant ça, il faudra avoir le @macompagnie.com onmicrosoft.com, parce que c'est le onmicrosoft.com qui devient la backbone dorsale évidemment totale pour Microsoft, qui vous accepte en tant qu'entreprise pour le fait de dire bah moi je t'ai créé un sous-domaine de mon côté, mais t'inquiète. Et si vous faites Security Trail, je vous invite à, je sais pas si je vais faire une petite annonce rigolote, mais pour ceux qui ont un compte payant c'est encore mieux, mais si vous faites Security Trail et vous regardez les sous-domaines de Security Trail, mettez onmicrosoft.com, puis vous allez voir, il vous sort pour 2,1 millions de sous-domaines derrière, donc on peut faire de la ricone là. On s'aperçoit évidemment que des tonnes d'entreprises sont évidemment derrière. Alors, tous ne sont pas fédérés, parce que les fédérations génèrent évidemment d'autres acquisitions de droits de technologie, de compliance et compagnie, que Microsoft oblige comme d'autres. Là. Mais c'est ça qui, évidemment, vous permet d'avoir votre tenant ou votre directory directement et que vos gens puissent après, évidemment, pointer sur un DNS, un vrai nom de domaine système, et ce DNS, lui, est connu de Microsoft, et c'est comme ça que vous trustez, en fait, et que vous avez une copie qui vous permet d'être activé par le cloud. Encore une fois, c'est comme ma présentation au Secure, là, il n'y a rien de magique, hein. On a juste remis des câbles et des systèmes en point. D'ailleurs, il y a un agent qui fait ça qui s'appelle AdConnect. Ce qui est très drôle, c'est un des agents qui a le plus de mises à jour depuis ces 5 dernières années, et qui est l'agent qui a évidemment été le plus volontairement hacké, détourné, géré et normalement protégé avec la DDS ou éventuellement avec ce qu'on appelle les serveurs qui sont entre deux pour évidemment faire les passations entre le on-premise et le cloud si on n'est pas arraché et mis au cloud complet. Et lui, le pauvre vieux, comme c'est pas un agentless et qu'il y a un agent, bah c'est sûr que si on prend évidemment la main sur l'agent pour un admin, bah il aurait un accès là. On parle de Kerberos ou d'être domaine admin quelque part ou d'être golden ticket. Ben là, vous n'êtes pas golden ticket quand vous avez accès évidemment à la déconnect. Il y a eu un bug hein, comme ça il y a eu 2 ans où malheureusement il y a eu quelqu'un qui a permis justement de vérifier qu'on pouvait récupérer le MSOL qui est en fait le numéro de sécurité, le compte de service qu'a déconnect utilisait. Seul problème, c'est qu'ils avaient mis ils généraient la clé en temps réel avec des choses qui se passaient sur la machine. Bah, ça n'a pas été très compliqué évidemment pour certains pour aller récupérer ça. Ils ont refait comme si qu'on était en install classique et puis ils ont retrouvé. J'ai même fait une présentation autant au bootcamp Microsoft qu'à CoAcFest pour présenter cette partie, et on arrive à récupérer en clair le mot de passe et le compte de service qui faisait qu'à l'époque vous étiez donc c'était en dessous de la 1.321, donc faut être surtout en 0.22. J'ose espérer que tous ceux qui seront pas en dessous d'un 1.321, vous êtes mal les gars, faut vraiment passer en 1.322 et au-dessus. Maintenant on est largement au-dessus, mais ça a corrigé une version problématique évidemment importante. Donc c'est sûr que tout ça est très compliqué à comprendre parce qu'évidemment on parle d'identité as a service par Microsoft, puis ça c'est Microsoft qui l'a lancé pour arriver à faire que bah effectivement, certains services derrière de chez Microsoft qui sont en PaaS, comme Teams, comme Power BI, comme évidemment tout la Power Platform en fait, c'est des composants Web API et des composants qui se reposent aussi derrière sur de l'infrastructure, évidemment dans les data centers de M365, c'est le nouveau branding, ou versus évidemment au travers d'Azure, pour être utilisé là-dessus. Mais c'est pas pour autant, encore une fois, et je tiens à le répéter pour que là les gens le comprennent, même si vous avez tout ce qu'on vient de vous dire, vous avez setupé votre M365, vous avez des licences et des plans, parce que attention, Microsoft n'est pas une OBNL, hein. Tout ça coûte évidemment beaucoup d'argent selon les abonnements et les plans que vous avez, selon les back-ends que vous avez aussi et compagnie. Donc par défaut et selon où vous trouvez, plus les plans ou les, on va dire les licences par utilisateur, parce que ça existe encore évidemment. Ça, on n'a pas enlevé la chose qui existe depuis 40 ans chez Microsoft, donc pour avoir un utilisateur E5, E3, E1 ou peu importe si vous êtes des grandes entreprises. Donc là, le but du jeu, c'est qu'effectivement avec ça vous avez accès à beaucoup plus de possibilités de sécurité, beaucoup plus de vérification back-end au niveau de la sécurité, et ça c'est Microsoft qui le fait du côté de son M365. Quelqu'un qui veut jamais se setuper dans Azure et qui veut pas de VM, qui veut pas de web app, il peut très bien vivre de cette manière totalement et sans avoir aucune connaissance que le portail Azure est quand même capable d'être accédé même avec son compte d'origine. Quoi. Voilà.
Oui, ben c'est ça. Même c'est un simple abonnement, même 305 permet de faire vivre le Azure. Et là, c'est là toute la magie des licences Microsoft qui allument ou ferment certaines fonctions dans Azure, dans M365. Des fois, ça va un peu plus loin. Tu parlais de la plateforme, entre autres, tout ce qui était Dynamics avant. Essentiellement, tout cet élément-là de pseudo-programmation qu'on met dans les mains des utilisateurs qui facilite le travail, mais en même temps, ça facilite aussi de se faire mal. Donc, c'est toutes c'est cette capacité-là. Et le danger avec des services comme M365 qui sont, a priori, qui ont semblé très faciles parce que c'est toutes des interfaces web pour gérer à peu près 80% du contenu. Ça amène le même danger qu'on a connu. Tu parlais de NT3, NT4. Tu me rappelles beaucoup de souvenirs. Tous ces administrateurs réseaux-là qui avaient peur avant parce qu'il y avait juste du Linux, du Unix avec des interfaces à ligne de commande qui avaient très, très peur cœur de manipuler. Ils sont avec du NT4, entre autres. C'est facile, on clique deux, trois affaires, pouf, on est parti. Par contre, tout le danger de ça, c'est qu'on ne mesure pas aussi tout l'effet sécurité ou l'absence d'effet sécurité qui est associé avec ces éléments-là. Et puis même parfois que certaines affaires plus funky et plus intéressantes au niveau sécurité, par exemple, se retrouvent maintenant dans du PowerShell, qui est l'équivalent du retour de la ligne de commande, même dans les environnements Microsoft. Là.
Oui, et puis en même temps, pour poursuivre sur ce que tu dis, Nicolas, ce qui est très drôle et intéressant en même temps, c'est que tu t'aperçois que, bah, comme je l'ai précisé d'ailleurs lors de ma présentation, je veux pas refaire encore une publicité sur Secure, mais j'en fais quand même une, et sur évidemment Splinternet, mais encore une fois, quand on me posait la question si le cloud est sécuritaire, donc je vous invite encore une fois à savoir si vous pouvez aller revoir ma presse au Secure, vous verrez pourquoi je le précise, mais on se pose la question à savoir est-ce que tout est américain? Arrêtez, stop, là je le dis haut et fort de nouveau et sans là, mon Splinternet et compagnie, c'est les Américains qui ont inventé tout ça, donc l'intégralité aujourd'hui, il y a une grosse bataille depuis 5-10 ans désormais, parce qu'évidemment beaucoup de gouvernements et de pays veulent faire ce fameux Splinternet pour cette souveraineté numérique et ses frontières numériques, et cette balkanisation, parce qu'il y a rien que le fait de, encore une fois, de l'argent, des taxes, qui fait quoi, ou les paradis fiscaux, le fait qu'on taxe sur, évidemment, des optimisations fiscales ou de l'intégration fiscale avec, évidemment, des sociétés qui sont juste des filiales de d'autres sociétés, on le comprend. Donc, les lois doivent, évidemment, être évoluées à ce niveau-là et on comprend qu'il y a des impôts ou des taxes qui doivent être faites parce que, évidemment, ces gens-là, sinon, ramènent ça dans leur pays d'origine. Mais là où il faut comprendre, c'est que, comme je le précisais lors de ma presse, et ça revient à ça, c'est que tout ce qui est les domain name server et l'ICANN se trouve avec des domaines distribués. Aujourd'hui, il y en a la plupart, les fameux 13 name domains, les root servers sont encore pour la plupart à part deux d'entre eux, sont tous aux États-Unis. Les deux autres, il y en a un aux Pays-Bas et l'autre était au Japon. Ou si c'est pas le Pays-Bas, c'est l'Allemagne et l'autre est au Japon. Donc, je vais vous dire, avec tout cet aspect-là, de préciser en même temps est-ce que c'est sécuritaire ou est-ce que j'ai pas envie que ça soit aux États-Unis, c'est trop tard. Sinon, vous allez jamais consommer de Microsoft, vous allez jamais consommer d'AWS, vous allez jamais consommer de Google. Et dès que vous sortez de toute façon de votre propre provider, vous êtes déjà avec, au bout de 5 ping, vous passez déjà par les États-Unis de toute façon, puisque sur à peu près une moyenne de 15 à 22 ping, c'est à peu près l'équivalent de 70% qui passe par les States. Donc, tout ça est encore une fois à savoir qu'est-ce qu'on veut protéger, comment on veut le protéger, qu'est-ce que c'est le cloud, on n'a pas le choix, le pourquoi on veut protéger ou pas, c'est on n'a pas envie de protéger, c'est les données qui sont importantes, mais là il y a d'autres moyens pour le faire avec les chiffrements, l'encryption barre métal de base, l'encryption évidemment que vous pouvez vous faire vous-même avec vos propres clés, évidemment le cloud public a pas été idiot. Maintenant vous pouvez faire du BioKey, du BioE, donc soit du Brown on Your Encryption ou Brown Your Key avec vous. Donc ça sous-entend aussi que eux-mêmes ne sont pas capables évidemment de le lire puisque c'est votre propre clé publique que vous avez. Donc vous n'avez pas filé votre clé privée. Donc ça aussi c'est pas très compliqué à le comprendre. Et de l'autre côté, j'ai plus affaire de data center. Bah ouais, je sais pas si vous voyez le pognon que vous venez d'économiser. Microsoft a aujourd'hui, c'est 1,1 milliard de dépenses annuelles pour la sécurité. AWS, c'est pareil. Qui dépense 1,3 milliard aujourd'hui comme Google ou Azure ou AWS? Même pas un gouvernement, même pas les plus grosses entreprises qui se disent les entreprises de classe mondiale. Non, il n'y a pas d'entreprises de classe mondiale. Eux sont des entreprises de classe mondiale parce qu'ils ont 64 locations évidemment à protéger. Et c'est comme une compagnie aérienne. Si la moindre erreur se passe, évidemment, dans le truc, tout le monde va s'écrouler et tout le monde va repartir dans ses affaires. Donc, ils n'ont pas le choix. Donc, par défaut, je vous dirais qu'il vaut mieux le laisser au niveau de la responsabilité. C'est sûr que le backup se fait à l'envers cette fois-ci. C'est d'être sûr que demain, Microsoft vous hijack pas comme AWS et les autres à vous prendre, à dire, bah là, moi, j'ai décidé de plus être à 6,80 par user, mais à 8,40 puis que vous voulez pas. Mais, ça, c'est une autre terme de sécurité. C'est la sécurité du gouvernement, de l'État, des lois. Vous imaginez bien que si l'autre est au monde de 2 dollars et que l'autre abaisse d'un dollar, il va perdre aussi. Donc, c'est la loi du marché, c'est la loi de la bourse, c'est la loi de défaire. Donc, vous avez d'autres leviers qui permettent évidemment de gérer. Donc, après, c'est à vous, à l'interne, de ne pas refaire, évidemment. Il faut surtout pas refaire comme vous le faites, évidemment, dans le monde réel, on va dire, et en mode silotique ou en mode comme on faisait. Donc, la seule chose que j'aurais à vous dire ou à faire passer comme message aussi aujourd'hui, c'est si vous faites du cloud et de la sécurité, il faut le voir ça comme vous êtes des cow-boys et vous gérez ça comme du bétail. Donc, en toute logique, c'est pas ce qui vous allez mettre. Vous n'allez pas faire une petite VM comme vous le faisiez à l'époque avec un petit serveur, un petit animal de compagnie. Vous allez le caresser dans le sens du poil. Vous allez lui donner à manger tous les jours. Vous allez le faire nourrir. Vous allez lui donner du foin. Vous allez le sortir dans le pâturage. Vous allez faire les petites choses comme il vous faut avec tous les trucs, les petits patchages qu'on n'a pas notifié dans la doc, qu'on n'a pas fait d'informations et on n'a pas prévenu les copains. On n'a pas fait de transfert de connaissances virtuelles. Un dégât dégage. On sait même plus comment ça fonctionne. Parce qu'on ne voit pas. Non, c'est fini ce monde-là. Ce monde-là, en toute logique, du côté cloud, c'est que vous êtes vraiment du bétail, c'est-à-dire on s'en fout du serveur que vous mettez, parce que de toute façon, ils vous mettent les accès, puis là, je reparle dans Azure, ils vous mettent des accès des images golden les plus à jour, à moins de... Maintenant, Azure, c'est même pas 60 jours où tout est déjà patché, donc aujourd'hui, c'est même... Ça cause même des problèmes des fois quand on veut tester avec évidemment des versions antérieures parce que c'est très compliqué à les récupérer ou à les avoir si on met une vanille ou si on récupère from scratch. Et puis de l'autre côté, en même temps, ça prouve aussi un certain sérieux de leur part. Donc vous, de votre côté, votre valeur ajoutée, c'est quoi? Bah, c'est le fameux mot infrastructure as code. Mais bon, là, je mettrai des bémols là-dedans. Mais effectivement, le infrastructure as code est votre capacité à automatiser, à faire du CI/CD sur certains points, mais être capable de faire du disaster recovery, de permettre de faire des backups dans le bon sens, comme des snapshots et autres, et de repartir vos machines si c'est pour le coup du IaaS et de la VM, mais en même temps, de vous inclure à faire du PaaS au maximum et du SaaS, parce qu'évidemment, ça veut dire que les responsabilités sont du côté de Microsoft ou AWS, et pas du vôtre, et d'essayer de pas réinventer la poudre. Posez-vous la question que si vous êtes une entreprise qui fait du développement ou vous êtes une entreprise ou un gouvernement qui fait de la donnée, pourquoi je repartais en IaaS? Quelle est la valeur de dire est-ce que mes gosses sont là pour maintenir, faire de l'évolution, aller voir les CVE details, être sûr et certain que j'ai bien patché, de le faire de les patcher, de recommencer à patcher, donc de recommencer à faire un animal de compagnie et de lui faire que vous allez le ressortir au pâturage et autres. Et c'est faire Microsoft, il le fait built-in.
Ouais, puis comme tu dis, ils mettent tellement d'argent dans tout ce volet-là des choses, c'est complètement fou de dédoubler par-dessus ce que Microsoft fait déjà quand c'est inclus dans ce qu'ils nous chargent de toute façon. Et on n'aura jamais la capacité, je dirais, aucune compagnie va avoir la capacité de mettre du temps et de l'énergie comme Microsoft, AWS et Google font dans la sécurité de leurs infrastructures et même nous forcer la main. Là, tu disais, là, c'est difficile parce que des fois, retourner en arrière, c'est très difficile, mais le fait d'aller en PaaS puis en SaaS, ça fait que la parade est partie et tu n'as plus le choix de suivre la dite parade parce que s'ils déprec une API, s'ils changent un fonctionnement parce que soit ils jugent c'est non sécuritaire, ils ont amélioré tout ça, on a le bénéfice de la sécurité, mais on a aussi le fait qu'il faut suivre. On n'a plus « Ouais, non, ça me plaît pas, moi, mes utilisateurs, ils n'aiment pas ça parce que... » Non, on avance, vraiment.
Ben, en même temps, comme tu le dis, on avance vraiment, mais là où moi, ça me choque, c'est d'entendre que... en fait, ça m'amuse de redépenser deux fois la même chose par rapport à des gens. Alors, je sais qu'il y a des problématiques où des gens ont plutôt la tendance à dire « Ouais, mais je vais pas virer 25% de mon monde. » Mais non, c'est pas la bonne question. La bonne question, c'est pas « Tu dois les virer », c'est que tu aurais dû être prévisible à les avoir réadaptés et à les former. Ceux qu'ils ne veulent pas, ceux qui veulent pas éventuellement faire. Là, je suis assez intransigeant et là, je remets ma casquette de sécurité, Red, Blue Team, et puis j'ai rien contre truc, va changer de métier et va faire autre chose, pour pas te dire d'autres métiers qui pourraient être considérés comme étant mauvais métiers. Donc c'est pour ça que je dis pas de métier, je dis va faire autre chose que de l'informatique. Mais par défaut, quand t'es en informatique, tu dois t'auto-adapter. La règle de l'armée américaine des Navy SEALs, c'est improviser, s'adapter, dominer. Ça rentre dans le même cadre que de toute façon, bon, nous, c'est notre leitmotiv au niveau sécurité, mais c'est le leitmotiv à tout prix de toute entreprise. C'est ce qu'on a fait pendant la pandémie. On a dû improviser, on a dû s'adapter, on essaye au bout d'un an et demi de dominer. On va se réadapter avec un mode hybride, avec un mode point, et on a vu très fortement que, encore une fois, si on n'a pas notre propre culture de faire éventuellement une entreprise qui fait les vaccins, on est dépendant, qu'on n'a pas de manière de gérer de manière holistique nos choses, on va être obligé de dépenser beaucoup plus d'argent et ainsi de suite. Donc, quel est l'intérêt de réinventer où là, la valeur ajoutée, nous, notre valeur et la valeur des gens sont de vendre le produit sur lequel ils doivent vendre ou leur idée ou leur principe de toute chaîne qu'ils veulent vendre. Donc, bah, réinventez pas ce que en train de Microsoft, Amazon et Google ont mis presque 14 ans pour, enfin, 2006 pour Google, 2003 pour Amazon et 2008 pour Azure, si je prends les premières versions qui n'étaient pas le mot Azure à l'époque, 2010 quand il l'a sorti officiellement et 2016 pour la nouvelle version. Donc par défaut, ces gens-là ont 10, 15 ans, 17 ans, 18 ans pour AWS, même si c'est réinventé 4 ou 5 fois. Là. Donc je veux dire que, et là, sans compter Alibaba, sans compter Oracle, sans compter IBM surtout, Oracle étant un peu différemment, on va pouvoir plutôt appeler ça un data as a service, mais dans son gros gros truc Oracle interne, mais donc lui je vais le mettre encore à part, mais Alibaba, et Alibaba ça y est, il est accessible pour n'importe qui désormais avec son Alibaba Cloud, vous pouvez monter des comptes Alibaba Cloud qui fonctionnent, et ça c'est un équivalent à aujourd'hui de largement d'Amazon ou de d'Azure. Et puis si on prend IBM, ils sont pas en reste non plus sur tout leur appareil. Donc honnêtement, il y aura un choix aussi à faire pour certaines personnes qui veulent aller dans le top public et dans la notion évidemment de ce côté de sécurité, c'est de se dire, est-ce qu'effectivement j'ai un choix? Bah, c'est pas que t'as pas un choix, c'est que pour une petite PME d'être chez peu importe les trois clouds publics importants, à part si on veut se faire vraiment de l'infrastructure, où là, c'est quand même vers AWS ou vers Azure qu'il faudra aller. Et puis ensuite, selon l'history et autres, mais si vous êtes from scratch et que vous partez soit avec Google Suite et puis de l'autre côté Azure, ou Google Suite avec Amazon, ou carrément Microsoft bout à bout avec 365, bah, un gars représente presque 6 gars demain s'il a les bonnes connaissances pour faire le travail. Donc ça aussi, en parlant de sécurité, c'est quand même un acquis, un atout majeur pour évidemment avoir un volant rapide de ce qu'on veut faire essentiellement pour son métier de vente, on va dire, hein, ou en tout cas son métier principal.
Tout à fait. Puis là, c'est intéressant que tu amènes justement l'évolution des gens en TI parce que, puis je l'ai vu, je vois énormément de résistance, j'imagine que toi aussi, au changement primordial que l'infrastructure est devenue du code. Tu l'as mentionné à plusieurs reprises et on en est rendu là. L'infrastructure comme on la connaît n'existe plus et n'existera plus à moins d'aller travailler justement pour les Google, Amazon et Microsoft de ce monde parce qu'on n'aura plus de serveurs à raquer, on n'aura plus de télécom à faire comme on faisait avec des SAN puis des affaires tout à fait ésotériques comme on devait faire il n'y a pas si longtemps. Même l'optimisation de virtualisation n'est même plus dans les choses. On lève des machines dans la virtualisation et c'est quasi automatique. Donc maintenant, on est tous dans un univers où soit on est chez Microsoft, c'est du PowerShell. Maîtriser PowerShell, maîtriser Graph API. Puis même Microsoft pousse plus vers le Graph API maintenant que le PowerShell pour aller encore plus dans l'univers du code et des API, REST et de tous ces univers-là qui est beaucoup plus large. Donc c'est vraiment du code et de la sécurité. Il n'y a plus d'infrastructure classique. Il n'y a plus d'architecture technologique classique qu'on est habitué.
Ben, en fait, il faut la connaître parce qu'il faut évidemment en tout point avoir toujours l'historique. Moi, je dis souvent que les gens oublient souvent l'histoire, malheureusement. Hein. Des fois, quand je démarre mes présentations sur même de la présentation de Secure de développement ou même de Secure de base, souvent je repars par l'idée de la souris en disant, vous savez qui a inventé la souris, à quelle époque c'est sorti. Alors, des fois, on me sort Wozniak, des fois, on me sort Microsoft, des fois, on me sort Apple, mais on me sort jamais Xerox PARC. Avec la souris d'Engelbart dans les années 68, avec la petite souris en bois qui était sortie de sa tête de 1961 et qu'on voit qu'on a oublié un certain nombre de choses, puis pouf, on passe déjà dans les années 80. Et la nouvelle génération aujourd'hui, qui évidemment ceux de mon fils 20 ans, puis des plus 30 ans, 40 ans, pense que l'informatique a démarré dans les années 2000. Mais non les gars, il n'y a pas de magie. Les protocoles sont sortis de 70 à 80. De 80 à 90, on a à peu près mis toutes les tenants et aboutissants avec évidemment des remises à jour qui ont été faites entre deux. Mais je veux dire, ça, on met des layers supplémentaires. Et là, ce que Microsoft offre, c'est que par défaut, là, bah, c'est encore une fois une possibilité, mais à des possibilités à telle puissance de data center, de virtualisation et de machine. Puis là, on vous propose à dire, bah, t'as plus à t'occuper de bécane. La seule chose qui est plus virtualisée chez nous encore, c'est le PROS, évidemment la carte mère et un peu les choses, mais tout le reste, à 93 ou 94%, tout est virtualisable. Et puis là, on dit, bah, avec des lignes de commande, donc oui, comme tu fais référence, parce que c'est des ressources, donc c'est évidemment de l'ARM, comme on le dit pour Azure, ou c'est des ressources aussi pour AWS, c'est du REST, puisque c'est du Web API. Et là, c'est des ressources qu'on fait piloter parce qu'on va te donner un certain nombre de points en passant par l'HTTP au lieu de passer par les RPC qu'on avait dans nos Windows et par des pipes et par des objets. Ben, on passe par des requêtes response, évidemment, qui sont pas réinventées aussi. On repasse par Internet. Le modèle OSI. Oh, tiens, c'est bizarre. Alors, là, le petit modèle OSI, là. Ah, 1, 2, 3, matériel, 4, 5, 6, 7. Ah, les modes applicatifs. On n'a pas réinventé la poudre encore, hein, à part les protocoles qui changent et qui évoluent. Donc, c'est encore une fois tous ces modèles-là qui sont encore activés et que si les gens savaient où les placer, ça permettrait aussi d'avoir moins d'erreurs. Donc, encore une fois, bah là, quand ça passe, évidemment, par le reste. Bon, Microsoft a mis en place effectivement MS Graph depuis très peu de temps. Hein, ça fait 3-4 ans qu'ils sont... ça fait vraiment 2 ans qu'ils font. Donc, MS Graph est vraiment la pyramide et le coquelicot complet là pour gérer aussi autant du côté M365 que du côté Azure. Même là, si le côté Azure, il est fait built-inement comme ça, il n'est pas accessible avec Graph direct, mais Graph est plutôt considéré comme étant côté AD et côté, évidemment, surtout M365, on n'a pas tout encore. Là aussi, il y a des versions qui ont changé. Il faut savoir que Azure AD est passé de version 1 à version 2. Le modèle a changé parce que c'est justement pour faire de l'idée as a service. Donc oui, évidemment, c'était le fameux MSOL. Donc, mais tout ça, faut comprendre comment Azure fonctionne. Parce qu'en fait, Azure fonctionne comment? Ben, il fonctionne qu'avec le back-end. C'est encore des machines. Les machines sont très drôles d'ailleurs. Azure maintenant est à 64% fait en Linux. Ça, c'est très drôle, je tiens à le dire. C'est pour ça que ça marche bien aussi, entre autres, même si ça marche bien avec ces Windows 2019 serveurs, mais c'est quand même Linux principalement. Donc ça, c'est quand même amusant de le signaler. De l'autre côté, évidemment, ce qui est amusant à signaler en même temps, c'est que ça se repose sur du cross-platform et c'est là où Eschenberg, qui est le papa quand même de beaucoup, beaucoup de choses, qui est le maître à penser du Delphi, du langage, ça aussi, les histoires, on l'oublie. Puis c'est lui qui a inventé le CLR, c'est lui qui a fait le C#, c'est lui qui fait F# à aujourd'hui ou le R. Bah, c'est tout ce monde-là qui fait que derrière, il y a un .NET, donc il y a un parterre. Pourquoi ils ont fait autant de... chien-lit, excusez-moi du terme, mais avec Vista et Windows 7, c'est parce qu'il fallait passer à coup de... Peu importe, là, on allait le broyer à mort, à le gaver comme une oie, là, c'était à mettre ce CLR partout sur, évidemment, là, et Windows 10 repose sur le CLR .NET, parce que le CLR .NET, demain, est reposant sur Azure et M365, et c'est ce que vous en bouffez à tous les jours. Donc, c'est 10% de C++ et de C, puis le reste, c'est du C# à mort avec du .NET, et c'est le .NET à mort avec tout ce que ça comporte. Et ça, bah, le .NET fait les DLL, les DLL font les modules PowerShell, les modules PowerShell fait PowerShell, PowerShell lui-même est fait en .NET, et évidemment, de l'autre côté, AZ-CLI, pour être cross-platform avec ces messieurs macOS et puis Linux, bah, est fait en Python, mais qui lui-même réinterroge quoi, bah, les modules PowerShell, qui réinterroge les DLL, les SDK et qui réinterroge le Web API derrière. Donc, quand vous savez comment la ligne fonctionne, bah, mettez-vous au point des Web API, vous saurez tout ce qu'ils font aujourd'hui. Puis si vous savez après vous débrouiller un petit peu en scripting, en développement et compagnie, bah, là, vous avez évidemment accès. Donc, c'est là où vous pouvez après jouer avec évidemment l'Azure AD, vous pouvez jouer avec évidemment les M365, vous pouvez jouer avec les CLI. Puis tout ça en plus, pour être très drôle, c'est que même le Docker CLI, puisque c'est la nouvelle coqueluche avec évidemment les conteneurs et ses orchestrateurs, je vais le préciser, bah, le Docker CLI lui-même a même d'origine été remodifié ces derniers temps pour être compatible avec les ressources groupes et les tenants ID et les subscriptions d'Azure et les ressources groupes et les façons de faire LDAP de AWS pour pouvoir aller gérer les ACI ou le ECS, donc les fameux conteneurs instances ou les conteneurs éventuels d'AWS pour pouvoir le gérer de la même manière. Encore une fois, et il vaut mieux utiliser d'ailleurs Docker CLI que les choses en PowerShell ou en AZ-CLI, que ça soit pour Azure ou AWS, parce qu'en fait, Docker CLI prend vraiment beaucoup plus à large en termes de sécurité, des contextes et autres. Mais encore une fois, on n'a pas réinventé la poudre à ce niveau-là en termes de sécurité pour pouvoir évidemment gérer correctement les choses. Après, c'est que du bon sens dans ce qu'on ferait aussi soi-même. Les comptes at-list, il faut des comptes brise-glace, il faut des mots de passe à 30 caractères, il faut du two-factor, il faut du conditional access. C'est ça qui est la beauté des choses. C'est quand vous le faites une fois, vous le faites à large et pour la planète entière de toute votre entreprise. C'est que vous soyez en Australie, en Europe ou en Amérique, le AD, pof, vous allez pointer au même data center de Microsoft, quoi.
Oui, puis j'ai trouvé ça très intéressant quand tu as abordé la compréhension. Puis dans le fond, d'un côté, j'abandonne un peu ça, mais le fait d'avoir poussé dans la dernière année, j'ai poussé Azure et M365 très, très, très loin dans ses retranchements en termes de pousser des fonctions qui sont pas bien documentées ou aller très, très loin. Et c'est quand tu commences à jouer à ce niveau-là, tu commences à comprendre comment tout est fait en dessous et que dans le fond, ton Exchange Online, c'est juste des exchanges comme on avait sur site avant, mais qui ont découplé de l'élément ensuite. Fait que là, quand on comprend la relation là-dedans, dans le fond, il y a aussi ce qu'on pourrait considérer lenteurs, parce que dans le monde d'instantanéité, des fois, quand la configuration prend une heure avant de s'appliquer, faut comprendre pourquoi en arrière Azure prend une heure, parce que quand on lance une commande, on rentre sur l'autoroute des commandes où tout le monde passe dans la même autoroute, puis là, on est filé comme les autres. Tu peux pas aller plus vite, l'autoroute est bouchée pour tout le monde, ou peut-être on a une voie réservée, mais si notre propre voie réservée est bouchée, ben on peut pas aller plus vite que notre propre voie réservée. Fait que toute cette compréhension-là aide à mieux vivre là-dedans. Puis ce que je constate, il y a beaucoup de gens avec qui je travaille qui ne maîtrisent pas ou ne comprennent pas tout ce qui se passe en dessous. Ils pensent, on peut faire tout l'effet de l'info magique, tout de penser que tout arrive comme par magie, tout est facile, tout est... Ouais, j'appuie sur le bouton, mais ça marche pas. Non, mais c'est parce que t'as comme un vrai exchange en dessous, ton annuaire doit être synchronisé avec ton exchange, ton annuaire aussi est synchronisé avec Teams, ton annuaire est synchronisé, là tu parlais avec les Dockers, qui sont tous en Linux, c'est ça qui est particulièrement comique quand tu creuses un peu, tout est en... C'est un univers qu'il faut effectivement comprendre, puis on peut réinventer. C'est ça.
Mais puis en même temps, je t'avouerai que les gens des fois me précisent, j'essaye de leur faire, parce que c'est toujours dans la sécurité ou dans le côté cloud en tant que tel, là on parle évidemment essentiellement de Microsoft parce qu'il est toujours plus ou moins un peu plus difficile d'aspect quand on n'est pas un bébé Microsoft ou qu'on n'a pas compris comment Microsoft fonctionne, parce que Microsoft a sa façon de faire. Est-ce qu'il est mieux ou moins bien qu'AWS aujourd'hui ou que d'autres? Ils ont eu leur même manière. Je dirais qu'AWS, lui, n'était pas constructeur d'OS d'origine, donc c'était peut-être beaucoup plus facile pour lui de basculer, le fait est d'être à 90% sur Linux et de s'auto-adapter avec ça et d'avoir une vision de microservice parce que la boutique avait déjà démarré là-dessus et que par défaut, leur boutique leur amenait évidemment une volonté de dire bah, « tout ce qu'on a fait pour la boutique, je vois pas pourquoi on pourrait pas le proposer ailleurs ». C'est comme ça que ça a démarré en 2003 jusqu'en 2006. Puis qu'en 2006, quand c'est sorti vraiment avec AWS Console là ou AWS Service, c'était évidemment le but du jeu. Mais là où il faut le comprendre, c'est que si je reprends la partie Microsoft, c'est que la partie Microsoft en tant que telle, l'AD, c'est trois data centers énormes qui font l'équivalent du stade Vidéotron de Québec multiplié par, je crois, 10 ou 20, et qui sont qu'à trois endroits sur la planète, c'est qu'ils sont toujours qu'aux États-Unis. À date, il y en a qui sont en cours de construction à cause de la GDPR en Europe, mais pour le moment, il y en aurait deux pour faire de la géolocalisation, évidemment, d'AD, mais là, pour le moment, c'est pour 2021, parce qu'à cause de la pandémie, il y a eu un décalage. Donc, quand les gens me disent, bah oui, mais moi, ma donnée, je veux qu'elle soit au Canada ou que je veux qu'elle soit au truc, ouais, mais ton AD, elle est déjà à 100% de toute façon au state. Donc, par défaut, puis ça, c'est pas grave avec ton AD Connect, parce que si tu savais comment ça fonctionnait dans la doc de Microsoft, ils te le disent. La déconnecte itère 1000 fois par un SHA-256 ton synchronisation de password dans le point. Donc, je peux même pas le savoir. Je viens d'itérer 1000 fois et je viens de faire un hash d'un SHA-256 pour mettre ta bouille seulement en plus. C'est ton hash, ta bouille. C'est la bouille que j'ai itérée en plus 1000 fois en SHA-256. C'est même pas le mot de passe en clair que j'ai fait parce que toi, tu m'as passé simplement un hash. Donc, là aussi, c'est complètement utopique de croire « bah oui, mais mes mots de passe vont être en haut ». Non, t'as pas de mot de passe, t'as juste un hash, et en plus, dans ton hash, il est en plus, encore une fois, crypté et itéré à ce niveau-là. Donc ça, faut se calmer aussi deux secondes. Hein. Puis c'est pas leur atout à Microsoft de faire ce genre de bêtises en même temps à ce niveau-là. Puis l'autre débat, c'est de trouver et de comprendre, comme tu le disais, de savoir comment ça marche en arrière ou comment c'est qu'ils ont 4 back-ends. Ils en ont pas 36 en PaaS. Ils ont le back-end EXO, qui est Exchange Online, le back-end SharePoint Online, le back-end ODO, OneDrive Online, ou OneDrive for Business, et évidemment maintenant le TMO ou le MTO, le Microsoft Teams Online. Mais Microsoft Teams Online, c'est simplement plusieurs serveurs qui ne concernent à faire que j'ai intégré Skype, J'ai intégré Link, donc tout ça, vous le voyez pas, mais à l'intérieur, c'est les mêmes DLL, donc c'est le même back-end qui est derrière, parce que quand j'ai racheté Skype, en fait, mes back-ends ont été décupliés, donc c'est redistribué dans tous les data centers de la planète de Microsoft, du côté des data centers que j'expliquais de M365. De ça, évidemment, cela se relie avec mes data centers de l'AD, ça doit être magique à voir, hein. Honnêtement, moi, j'ai eu la chance d'avoir quelques présentations de cet ordre. Je peux vous assurer que là, on rentre dans vraiment le design des data centers et du scaling à la norme de Istarg à avoir, je sais plus, 2 millions de personnes ou je sais plus combien de millions de personnes par jour en connexion, là, ou 100, non, c'est plus de 100 millions. Non. Je voudrais pas vous dire de bêtises, mais en tout cas, c'est beaucoup, beaucoup de personnes au truc. Donc, WebRTC, si on connaît comment on fait du WebRTC, c'est pas si facile que ça pour faire de la vidéo et compagnie et à outrance. Gestion avec évidemment du gRPC, du protocole Buff, des gestions et autres. Enfin, bref, faire de la vidéo en ligne comme ça quand c'est correspondant, je peux vous dire que ça prend évidemment comme MSN à l'époque ou ICQ pour ceux qui sont les plus vieux, avec la petite évidemment pâquerette. C'est pas facile de faire des serveurs de synchronisation et compagnie pour le faire. Ça rappelle peut-être des souvenirs à chacun, mais là, vous imaginez ça à large au travers de la pandémie. Donc évidemment, c'est quand même assez incroyable. Donc là, le but du jeu, c'est que toute cette partie-là aujourd'hui, c'est que vous avez un point important, c'est la notion que ces back-ends-là, bah, Teams est en train après de bouffer, à dire pourquoi ils réinventeraient le wiki? Ils ont leur wiki. Pourquoi ils réinventeraient le stockage dans Teams? C'est OneDrive. Donc, comme j'ai mon OneDrive, bah, c'est pas OneDrive. Ah, bah, j'ai mes liens de mes projets. Bah oui, mais mes projets et les aspects des menus que vous voyez en haut, bah, c'est SharePoint. Sauf qu'il est présenté d'une autre manière. C'est exactement dans Windows. Quand vous avez dans Windows votre barre de tâches avec le menu Windows et vos petites icônes qui sont en dessous, bah quand vous regardez ça, c'est l'Explorer. Ça veut dire c'est que quand vous faites Windows E et que vous lancez l'explorateur Windows, bah sauf que ça vous est présenté différemment, mais c'est le même interface que quand vous êtes dans le desktop de Windows ou quand vous êtes avec votre fond, bah c'est Windows Explorer, sauf qu'ils l'ont bidouillé d'une autre manière pour pouvoir le faire. C'est les mêmes DLL et la même façon de le gérer, sauf qu'on vous le présente d'une autre manière. Donc les backends sont pareils. Exchange, comme Nicolas, tu viens de le mentionner, c'est de l'exchange à outrance scalabilisé qui évidemment est fait par tenant et par évidemment l'abonnement sur lequel vous êtes, parce que souvent évidemment les abonnements sont quand même bien distincts par design, hein, ça va de soi, ils vont pas faire des mouvements latéraux sur certains. C'est ça pourquoi on appelle ça un cloud public. C'est le but du jeu en tous les cas. Puis quand on commence à comprendre comment c'est fait, bah là, on se dit, OK, mais Power BI, alors c'est fait comment? Bah Power BI, quand tu le lances et quand tu fais ton compte, bah t'as ton app powerbi.com, mais ton app powerbi.com derrière, ils viennent de setuper derrière ton compte toute une patoune de Yak, comme si tu le faisais, mais dans Azure cette fois-ci, parce que là, ils utilisent Azure, donc ils utilisent leur propre Azure pour eux-mêmes, c'est du dog food. D'ailleurs, il y a un truc très drôle, c'est que quand on fouille un petit peu dans les web API d'Azure, on voit qu'il y a des API qui s'appellent api.dogfood.microsoft.portal.azure.com. Je trouve ça très fort, parce qu'il y a du dog food derrière, même eux ont fait une blague à mettre le mot dog food à l'intérieur. Donc c'est pour ça que je vous le précise, c'est ça qui est très drôle. Donc parce qu'ils se mangent eux-mêmes, et ça signifie qu'ils montent un service fabrique, un SQL Warehouse, votre database SQL, votre système de points, et ça y est, votre Power BI est créé à l'arrière. C'est-à-dire que là, votre workspace est créé avec un log analytics, il est créé avec un truc, et tout ça, c'est comme si vous l'aviez créé vous-même à la main, si vous étiez dans Azure, en ayant créé votre SQL Warehouse, votre service fabrique, votre workspace, votre analyse workspace, et de gérer évidemment votre système. Sauf que là, c'est effectivement Microsoft qui le gère pour vous de manière, c'est pour ça qu'on l'appelle PaaS, et plateforme as a service, et qu'il le fait derrière. Donc, évidemment, tous les aspects de sécurité qui vont autour, bah, se mettre qu'eux vont vous faire un client qui est le desktop. D'ailleurs, client, il est complètement dénaturé de toute attache. Parce que lui, il marche par le compte. Pourquoi il marche par le compte? Ah, attendez, on a dit quoi au début du podcast? Ah, bah oui, c'est l'AD. Ah, mais c'est grâce à l'AD qui sait où je me trouve. Mais oui, qu'est-ce que je suis bête? C'est 365. Bah oui, c'est ça. Ah, bah oui, il peut être défait. C'est par mon compte qu'il le sait. Oh, le cochon. Ah, bah oui, il le sait. Mais là, on peut être local. On peut être évidemment à distance. Vous avez le app service qui est votre app service, évidemment, web en tant que tel. Puis là, il y a des notions. Alors après, il y a des notions workspace 1, workspace 2, les nouveaux workspace expérience. Bon, après, on rentre après dans le creux du creux. Mais quand déjà on dénature un peu cette forme-là, alors Microsoft change pas mal de branding. Les Power Platform en font partie, la Power BI en est partie, mais Power Automate, c'était Flow avant. Power Agent, c'était Chatbot, sauf qu'ils l'ont, c'est mieux de mettre Power Agent, ça fait plus fun. Et évidemment, Power Apps pour créer le code, mais ça, c'est les logic apps que vous avez, ou la notion, évidemment, d'avoir évidemment des logic apps en place. Donc, encore une fois, pas de sécurité par l'obscurité, il n'y a pas de magie, c'est simplement des choses qui sont à bouger, sauf qu'à la fin, c'est quoi encore? C'est du Web API qui passe par des putains de fils réseau, qui marche avec les verbes HTTP, qui marche avec des concepts hauts, ou OpenID pour la partie d'autorisation, d'authentification, qui marche évidemment avec une AD pour aller trouver l'annuaire et les informations, et qui ensuite fonctionne de la même manière pour le faire. Donc, je vous dirais que par défaut, il n'y a pas de magie, c'est que si on se pose deux secondes là, vous savez, on a une norme dans le monde de la sécurité, c'est le fameux RTFM. Donc, je vais dire vraiment, évidemment, le bon terme, parce que là, on est dans le monde public. Donc, le read this full manuel. Mais le F peut éventuellement être un petit peu plus graveleux si on est un peu plus méchant. Mais il n'y a que ça. Il n'y a que ça à faire. Et évidemment, de comprendre comment le back-end peut évidemment tourner. Et là, on n'a plus spécialement peur du cloud lorsqu'on comprend évidemment comment ça fonctionne. C'est tout simple.
Oui, puis de toute façon, moi, je suis de la même école de pensée que toi. Moi, j'ai brassé dans la portée que j'avais pour un de mes mandats, là, j'ai brassé ça au maximum de ce que je pouvais justement pour, un, connaître, savoir c'est quoi les tenants aboutissants. Puis au niveau sécurité, si on connaît pas les tenants aboutissants, là, on peut faire beaucoup de mauvais choix. Et c'est très, très important de maîtriser tout cet aspect-là. On va conclure l'épisode-là, parce qu'on a quand même beaucoup de sujets. Je pense qu'on
C'est une belle introduction, je pense. On pourra évidemment en faire, puis pointer sur des sujets bien particuliers, parce que là, pour le coup, j'ai le top 10 des best practices. Je peux vous parler évidemment du côté infrastructure. Il y a aussi MCAS, qui est le CIEM pour les pauvres, du côté M365. Si vous voulez le CIEM pour les pros, c'est évidemment Sentinel. Si vous voulez du posture pour Azure, c'est évidemment Azure Security Center. Si vous voulez du compliance, vous avez Security Microsoft Compliance du côté M365. Donc, même Microsoft a prévu aussi pour les gens qui n'allaient pas spécialement dans Azure leur posture de sécurité ou leur système, évidemment, de Cloud Apps Security et compagnie pour le faire. Donc là, on a encore, on a encore des bonnes heures devant nous pour éventuellement intéresser du monde là-dessus. Mais oui, beaucoup. Effectivement, CASB aussi, puisque le CASB...
C'est la question que j'allais dire, parce que le MCAS, c'est le CASB. C'est sûr, tu l'utilises en version diminuée, le MCAS, c'est effectivement Sentinel pour les pauvres, mais en version complète, le MCAS est franchement intéressant.
Il est intéressant, mais ce que je veux dire, c'est qu'en toute logique, il ne peut pas être servi en CIEM en tant que tel. Et là, je parle du CIEM voulu. Il est plus utilisé comme un CASB, une gestion évidemment de ton check par cloud au niveau de l'app, puisqu'ils ont quand même référencé, ils en ont réaugmenté un peu, mais c'est quand même 18 000 apps autant cloud que donc ça te permet que si tu mets en plus du endpoint avec Windows Defender, puis c'est là où la magie Microsoft s'opère et ils me font rire, c'est qu'en plus avec Windows 10, ils en ont mis du temps, puis ils ont fait les efforts, on leur a cassé du sucre dessus, on a fait ce qu'il faut. Mais désormais, maintenant, Microsoft Defender fait partie même service depuis 19.03 du Windows, avec des notions de licence et juste avec des petits swatch genre true-false, bingo, vous passez E5, bing, vous avez tous les modules possibles, Identity Protection, Password Protection, Firewall, système qui renvoie dans les endpoints Defender et compagnie. Puis quand même, pour que un de mes copains que je connais, Red Teamer, qui bosse dans une banque verte, qui me dit qu'il a du mal des fois à y passer, c'est que je me dis que par défaut, si lui il a du mal à y passer, il n'y a pas grand monde qui y passe. Alors il y a toujours moyen mais c'est beaucoup plus compliqué. Donc je veux dire que il commence à faire du bout au bout entre l'EDR, entre le cloud, entre le on-premise, le hybride, les VM à l'interne, la manière de le faire. Puis il y a un truc pour finir, pour te donner encore un point, ce qui est très drôle aussi, c'est le cloud privé. Ça c'est un vrai terme aujourd'hui qui est fait avec évidemment l'Azure Stack, que j'ai décortiqué et que j'ai même mis en place un Azure Stack SDK, qui est le Azure Stack Dev en fait en tant que tel. Puis alors là, vous savez comment Azure fonctionne. C'est ça qui est génial, c'est que maintenant vous savez en plus le back-end au complet de comment Azure fonctionne derrière, et Outpost, qui est évidemment son alter ego du côté AWS. Vous avez la même chose du côté Google aussi, mais un petit peu moins connu ou un peu moins utilisé. Mais là aussi, ça rentre aussi dans un cadre en se disant, est-ce qu'on est sûr de vouloir un cloud privé? Ça pourrait être la question de fin qui permettrait de, de conclure pour ma part, mais il y a plein de choses à dire. En tout cas, merci Nicolas de ton invitation et de cette possibilité de d'en parler. C'est ça qui est cool.
Merci de ta participation. C'est des, à chaque fois, je suis toujours très étonné par l'éventail de tout ça. C'est très agréable. Donc, on va souhaiter une bonne quinzaine au moins à tout le monde. Puis, on se reparle très prochainement.
On se reparle bientôt. Et puis, on essaye de trouver des sujets importants. Puis, si vous avez ou toi-même, tu sais comment aller récupérer certains sujets que des gens voudraient avoir, qu'ils n'hésitent pas à te contacter et on pourra parler de certains points là-dessus. Aucun problème. Oui. À bientôt, Nicolas. Merci. À bientôt.